encore dit bonjour. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Si on était attentif, on aurait de quoi faire. Je vous dis franchement, mes amis, je n'aurais même pas besoin de parler. Notre amie Claudine, elle nous a lu ce passage des Hébreux qui dit par exemple, « Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. » Ça veut dire, ça vous a coûté quoi? Quand on donne son sang, on accepte de mourir dans le même sens que ça a été dit maintenant. Et c'est vrai que contre la tentation, finalement, jusqu'où on a été pour lutter contre la tentation? Jusqu'où? Il semble qu'elle l'a prise. Alors Jésus, il a été annoncé, vous pouvez lire ça dans Matthieu 1, 21, quand il est parlé de Jésus, ce qu'il va faire, il va sauver son peuple de ses péchés. On a chanté ce matin qu'il était le libérateur. Christ nous affranchit. Ça veut dire que s'il est venu pour nous affranchir et qu'on continue à vivre dans le péché comme avant, on rend nul ce qu'il a fait. Et Jésus n'est pas simplement venu pour prendre une grande éponge et pour tous les jours effacer le tableau. Si je pourrais dire ça comme ça. Il est le libérateur, il vient pour nous délivrer. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Mais nous, nous concevons comme chrétiens la foi un peu comme la magie. Il suffit une petite prière, tac, et c'est automatique. C'est comme si on pouvait dire la championne de la descente de ski, on avait juste prié pour elle avant, et puis on lui dit, vas-y, tu vas gagner. C'est comme ça que ça se passe? Non, c'est des heures, des années d'entraînement avec un objectif, et on va dans cet objectif. Mais nous, nous croyons que ça se passe avec une petite prière magique. Avec un peu une onction, on tremble un peu, et ça ira. Il n'y a rien qui se passe comme ça. Et si on admet dans la vie de tous les jours que nous allons vivre, nous allons avoir, atteindre un objectif en traversant des épreuves, en passant des examens. Moi, j'aime pas les examens, j'ai jamais aimé ça, hein, on est un peu comme ça. Et pourtant, il n'y a aucune personne dans ce pays qui a un diplôme sans avoir passé des examens. Mais nous, on aimerait que la vie chrétienne, il n'y ait pas d'examen. Donc, il y a une dichotomie dans notre vie. Quelque chose qui ne fonctionne pas parce que nous admettons la logique des choses de la vie et nous n'admettons pas qu'il doit y avoir cette même logique dans la vie avec Dieu. Et qu'il y a aussi des épreuves. Alors on a dit aussi cette année qu'on allait vivre comme thématique les actes des apôtres, mais pas seulement des apôtres, de ceux qui veulent vivre la vie avec Jésus. Parce que les actes des apôtres, mes chers amis, c'est seulement l'histoire de quelques personnes, mais il y en a plein. Déjà, quand on lit les actes des apôtres, il y en a plusieurs qui n'étaient pas apôtres. Dans ce qu'on regarde, par exemple, Ananias. Je ne sais pas si vous vous souvenez de qui est Ananias. Je ne parle pas du mari de Saphira, parce que ce n'est pas tellement bon exemple, disons. Mais un Ananias qui était appelé à prier pour l'apôtre Paul. Hein, quand il est tombé de son cheval, il a reçu des écailles sur les yeux, il était complètement dans la nuit, il errait comme... voilà. Et c'est cet Ananias qui a été appelé par Dieu à aller prier pour Paul. et pour qu'il soit délivré et qu'il soit envoyé. Puis c'est Ananias, on n'en parle plus jamais. Mais j'imagine que Ananias, ce n'était pas sa seule action qu'il a faite dans sa vie de disciple. Vous comprenez? Il en a fait certainement beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, eh ben, il y a encore les actes des disciples. Malheureusement, dans les on a un petit peu des modes dans l'Église, voyez-vous. Dans l'histoire de l'Église également, on fête cette année le 500e anniversaire de la Réforme. Et bien sûr qu'une des choses les plus extraordinaires qui a été redécouverte, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu. Hier, j'étais à Delémont et j'étais très réjoui parce que il y avait là, pour la première fois et encore, ça continue d'avoir, chaque fois qu'on y va, il y a des personnes nouvelles qui viennent. Et là, il y avait une personne nouvelle. Et à la fin du message, il m'a dit, est-ce que je pourrais vous demander quelque chose? Est-ce que je pourrais avoir une Bible? Est-ce que je pourrais avoir une Bible? Parce que j'ai vu que ce que vous avez dit, c'est vrai. Et je veux le connaître. Magnifique, hein? Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et c'est vrai, la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors avant de parler des actes des apôtres, on va lire quelques textes de l'Évangile. Une des choses que Jésus a promis, vous savez, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. D'abord, mes amis, ça paraît logique. Si vous avez soif, vous allez en principe boire. C'est pas que vous n'êtes pas resté comme ça et puis attendre que ça se remplisse dans votre estomac tout seul, ou bien. Vous n'êtes pas qu'attendre que quelqu'un vous mette un tuyau quelque part pour que ça se remplisse. Ça veut dire boire, ça veut dire être actif. On n'est pas passif. Ce que Dieu nous a donné, il faut le prendre. C'est comme si on disait, ah oui, il y a tous les fruits des arbres, j'attends qu'ils arrivent tout seuls dans ma maison, qu'ils se mettent tout seuls dans la casserole, qu'ils soient pelés, qu'on fasse de la compote, ça se fasse tout seul. Vous voyez, on sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais au niveau de la foi, il faudrait que ça se passe tout seul. Il y a un problème quand même, ou bien. Ce n'est pas logique. Alors, première chose, il faut savoir, c'est ce que tu as soif. Ce que tu as soif, si tu as soif. C'est comme quand Jésus dit, recevez. Recevez. Moi, je dis, voilà, je te donne. Je te donne. Ben, pour le recevoir, il faut qu'elle le prenne. C'est pas juste comme ça. J'attends. Non, la foi, il y a un beau chant qui dit, la foi saisit ce qu'il promet. C'est merveilleux ce que Dieu fait, mais c'est la foi qui saisit ce qu'il promet. Mes amis, donc nous sommes actifs, on n'est pas passifs. Et tout le monde attend des miracles. Mais Dieu dit, mais il est là le miracle, mais prends-le. Prends-le, saisis-toi des choses que je t'ai données. Alors, mes amis, est-ce que vous êtes des saints ou bien des pécheurs sauvés par grâce? Je vous pose la question. Vous êtes des saints. Ça veut dire que si vous êtes des saints, et vous pouvez regarder le Nouveau Testament chaque fois que Paul écrit, il écrit à des saints. Il n'écrit pas à des pécheurs qui continuent à pratiquer le péché que Dieu efface tous les jours. Si je peux dire ça comme ça, je provoque un peu, hein. Alors, oui, sur la route, il y a des obstacles. Si je veux aller à Paris, par exemple, je vais à pied à Paris, il y aura peut-être des trous sur la route, je vais trébucher, je vais tomber, il faudra que je me relève. Il faudra peut-être que je prenne des chemins détournés, mais si j'ai mon objectif d'aller à Paris, personne ne m'empêchera d'aller à Paris. Et si je veux vivre comme ça, dans la sainteté, mes amis, alors ça doit être aussi un objectif qui ne quitte jamais. Qui ne me quitte jamais. Alors oui, je peux avoir cédé à la tentation. Je peux être tombé. Mais je ne vais pas rester 3 semaines par terre en me disant j'en peux plus, je suis nul. Je pourrais faire ça. Mais la Bible nous dit que si tu tombes, tu peux te relever. Si tu as ton objectif, tu peux rester actif, tu peux aller de l'avant. Dieu veut t'utiliser. Et si tes prières, si les choses ne passent pas à la première fois, ni même à la deuxième, ni même à la troisième, il ne s'agit pas de faire des prières de 3 quarts d'heure. Parce que Dieu n'est pas sourd. Tu peux juste proclamer ce que Dieu a fait. Jusqu'à ce que tu le vois s'accomplir. C'est ça la persévérance. Et si vous priez pour des gens, des malades dans la rue, que vous faites une prière de 1 quart d'heure, je vous garantis que ça va pas fonctionner. Normalement, le gars dit, alors je suis pressé, je m'en vais. Mais si vous avez une prière de foi, les choses vont changer. Alors, j'aimerais reprendre avec vous quelques passages. D'abord, on va prendre les évangiles, parce que les actes, c'est ce que la conséquence des évangiles, mes amis. Les disciples, ils ont fait ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit dans les évangiles. Alors, j'aimerais reprendre avec vous Matthieu 28, vous le connaissez par cœur. Mais vous savez, malheureusement, on connaît des choses par cœur. Et si on ne les met pas en pratique, c'est juste une couche de religion qui fait que c'est un imperméable contre la volonté de Dieu. Si Dieu nous parle et qu'on n'obéit pas, ça devient une couche de résistance. Quand Dieu nous dit quelque chose et qu'on n'obéit pas, la première fois que je résiste, alors je m'entraîne pour pouvoir... Il ne faut pas beaucoup d'efforts pour résister une deuxième fois. C'est la même chose dans l'obéissance. Quand tu as obéi une fois, c'est un peu plus facile d'obéir une deuxième fois. Et après, ça devient toujours plus facile. C'est comme quand tu fais du fitness et que tu prends les barres. Tu ne vas pas commencer avec 200 kilos. Mais des fois, les chrétiens, ils font comme ça. Ils disent, je vais faire un jeûne de 3 semaines, mais ils n'ont encore pas jeûné un demi-jour. Ou bien ils veulent faire des longues prières, bien prier 1 heure par jour, mais ils n'ont pas encore commencé à prier avec 5 minutes. Puis on se met des défis comme ça, on est à côté de la plaque, voyez-vous. Mais la Bible nous dit qu'il faut marcher en proportion de sa foi. Alors commence avec 5 minutes et entraîne-toi. Après, tu vas gagner les championnats du monde de la prière. Vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Jésus s'était approché, verset 18, Matthieu 28, 18, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » On peut dire alléluia. Hein? « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je vous suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chers amis, la plupart du temps, très souvent, on a découpé ce passage. Par exemple, on a dit que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde quand on est en train de faire des disciples. Il n'est pas nécessairement avec nous tous les jours, partout où on va et dans tout ce qu'on fait. Mais quand on est en train de faire des disciples, il est avec nous tous les jours, exactement. Mais nous, on extrait cette phrase et on se l'applique à toutes les sauces. Puis Jésus dit, mais excuse-moi, moi je ne t'ai pas dit ça. Moi j'ai dit que je suis avec toi quand tu feras des disciples. Mes chers amis, d'accord? Alors, il leur dit, allez, faites des disciples, enseignez-leur. Évidemment, en principe, on n'est pas professeur avant d'avoir été d'abord apprenti ou étudiant. et en ayant pratiqué, exercé quelque chose soi-même. Moi, je ne peux pas enseigner quelqu'un à faire quelque chose que je ne sais pas faire. Ou bien. Et faire des disciples à observer et obéir tout ce que je vous ai prescrit avant de dire aux autres comment il faut faire. Il faut que je le teste moi-même. Il faut que je le pratique moi-même. Et quand je le pratique moi-même, alors je peux faire des disciples, je peux enseigner les autres. Vous savez, Jésus, il était dit de lui, dans Marc, chapitre 1er, qu'il enseignait avec autorité et non comme les scribes. Pourquoi il avait de l'autorité, Jésus, et pas les scribes? Jésus leur a dit dans le chapitre 23 de Matthieu, parce qu'il a dit, ils disent et ils ne font pas. Tandis que Jésus, il faisait ce qu'il disait. Et chers amis, si nous nous mettons nous-mêmes à faire ce que Jésus dit, à le pratiquer nous-mêmes, le monde sera bouleversé. Le problème, c'est que nous aussi, comme disaient mes petits-enfants, nous sommes des Parisiens. Non, des pharisiens. Quand nous ne faisons pas ce que nous disons. Nous avons mis des couches ici là-dessus. Il y en a plein de couches de savoir, mais nous ne les mettons pas en pratique. À cause de cela, il n'y a rien qui change. Alors avant de pouvoir faire des disciples, la première chose, c'est de pratiquer, de mettre moi-même les choses en pratique. Il y a ton voisin qui est malade. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, oh, mais je ne le sens pas. Je ne sens pas d'aller le voir. Je ne sens pas. Alors oui, si tu attends de sentir, mon pauvre ami, tu risques d'attendre un moment. Hein. Jésus dit, va. Va, allez. J'ai bien aimé dans un séminaire ce qu'on nous a dit ici. On considère si on mettait l'église, ces lieux ici, si on les faisait ressembler à une grange, si on la considère comme une grange, mes amis. C'est comme si moi je disais, Dipsy, moisson, il te faut rentrer dans la grange. Rentre dans la grange, moisson, dépêche-toi de rentrer. Puis j'attends. Et je parle ici à la moisson. C'est comme ça qu'elle va rentrer. Alors on fait une magnifique décoration. On chante des beaux chants. Mais ce n'est pas comme ça que la moisson va rentrer, mes amis. Ce qui m'a frappé hier, en arrivant de Lémon, en arrivant, j'étais avec Anne-Lise, puis il y avait quelqu'un qui était assis au petit restaurant à côté, puis elle lui dit, viens écouter la parole de Dieu. Puis elle lui dit, je lui ai dit déjà des dizaines de fois, il n'est encore pas venu. Elle lui dit, ça fait 25 ans que tu me casses les pieds. Mais elle lui a encore dit une fois. Elle lui a encore dit cette fois-là. Je trouve ça fantastique. Et cet homme-là, il a plaisanté après, il a dit, de toute façon, moi, j'irai en enfer. J'ai pas eu le temps, mais j'étais prêt à lui dire, en cela, je suis d'accord avec vous. Vous irez en enfer. Vous savez pas ce que ça veut dire. Mais on ne se lasse pas. On n'arrête pas, on persévère. Ce n'est plus notre problème que les gens disent oui ou non. D'ailleurs, Jésus nous a dit, il y a des gens qui vous... Celui qui me reçoit va vous recevoir, celui qui me rejette vous rejettera. Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas de mystère. Donc, allez enseigner, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont fait ça et enseignez-leur. Et quand vous regardez le chapitre 2 des Actes, eh bien, ils ont fait exactement ça. Ils ont annoncé la bonne nouvelle, chapitre 2. Après, les gens, ils étaient tous interloqués. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Repentez-vous. Que chacun soit baptisé et vous recevrez le Saint-Esprit. Exactement. La première chose, le premier moment où on voit les actes des apôtres, ils ont exactement fait ça, mes amis. Alors je crois aujourd'hui, comme dans les naissances naturelles, il y a des conséquences quand les naissances naturelles ne sont pas correctes. Si par exemple un enfant est né, il est resté trop longtemps, sa tête, il avait de la peine de passer, on a un enfant comme ça, dans l'église Mora, il a 16 ans, il a une mentalité d'un enfant de 6 mois. Il joue avec le grêlo comme ça, parce qu'il y a eu un problème de naissance. Et je crois qu'il y a aussi des gens qui sont mal nés de nouveau, si je pourrais dire ça comme ça. Alors on pourrait encore se demander, est-ce qu'ils sont vraiment nés de nouveau ou pas? Ben, ça c'est une bonne question. Parce que, par exemple, est-ce que tu t'es repenti vraiment de tes péchés avant d'être baptisé? Est-ce que tu as vécu la repentance? Est-ce que cette repentance aujourd'hui, c'est un principe de vie? S'il n'y a pas eu de repentance avant le baptême, d'abord pour être se repentir, il faut être conscient de son état de péché déjà. S'il n'y a pas eu de repentance, le baptême c'est juste une petite trompette qui ne change rien. Et j'ai aussi connu des gens qui voulaient mettre dans la notion du baptême, dans le baptême, une espèce d'acte magique. Quand j'aurai été baptisé, tout ira bien. Mais non, ce n'est pas vrai. Le baptême, mes amis, c'est comme un contrat qu'on signe avec le monde spirituel, avec Dieu, et qui fait que quand je suis baptisé, après je peux décider de dire non au péché. Avant, je ne pouvais pas. C'est comme si on est séparé de deux mondes. Mais si tu crois que simplement, alors tout va changer de manière magique, non. L'obéissance, ce n'est pas de la magie. C'est un processus. Et moi, je continue encore aujourd'hui quand je désobéis, parce que ça m'arrive, plus souvent qu'à mon tour. Alors je reviens à Dieu, je demande pardon et je dis je repars sur ce chemin. Parce que mon objectif, mes amis, et l'objectif de chrétien, c'est d'être comme Jésus. Et c'est pour ça qu'on a appelé les premiers chrétiens, chrétiens, parce qu'ils étaient des petits Christ. Ils étaient comme Jésus. Ce n'était pas simplement une étiquette. Ça, c'est mon objectif. Être comme Jésus. Et Jésus, il les a envoyés. On va lire maintenant Luc chapitre 9. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Alors, le verset premier. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Mes chers amis, il les envoya. Il leur a pas dit, ouais, continuez à rester dans la chambre haute. Ça ira bien. C'est bien la chambre haute, mais la chambre haute, c'est la salle d'entraînement, si je voudrais ainsi m'exprimer. C'est là où on reçoit la révélation communautaire. Mais après, il faut aller, et si tu ne vas pas, je suis désolé, excusez-moi d'utiliser un terme grotesque, il n'y aura pas de miracle. Parce que les miracles se font quand on obéit et quand on va. Ils ne sont pas autrement. Alors, voilà, ils ont fait ça. Ils allèrent, verset 6, ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Ça, c'est la vie des disciples qui va se multiplier après la Pentecôte. On va voir ça, ils vont le vivre. Ils ont pris des risques. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais alors est-ce que tous les gens ont été guéris? J'en sais rien. Mais est-ce que tout ce que vous faites dans votre vie, tout ce que vous essayez dans votre vie, ça a du succès au premier coup? Non. Moi, je ne connais rien qui a du succès au premier coup. Il faut persévérer. Alors, il y a des fois, oui, moi j'ai vu des guérisons. J'ai prié, les gens étaient guéris. Je me souviens aussi, par exemple, on était dans un camp, ma femme, elle a eu un zona. Je ne sais pas ce que c'est un zona, c'est quelque chose de très grave. Ça peut être grave, ça peut vous rendre aveugle. On a prié, on a fait une onction d'huile, tout de suite, c'était terminé. Tout de suite, plus de douleur, fini, terminé. Il y avait juste encore les rougeurs, et ça a disparu. J'ai vécu ça aussi avec quelqu'un qui a été brûlé gravement. Et puis j'en aurai d'autres, des exemples. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Parfois, il faut persévérer. Revenir vers le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors voilà les 12. Et puis après, on arrive au chapitre 10. Aussi le début du chapitre. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. C'est intéressant, on va juste arrêter là, on continuera après. C'est intéressant. D'abord, il les envoya, après il dit de prier pour qu'il y en ait d'autres. Extraordinaire. La prière n'est jamais innocente quand vous êtes en train de prier pour recevoir la volonté de Dieu. En principe, vous ne priez pas pour que Dieu envoie les autres. Le Seigneur, avant que les choses se passent avec les autres, il veut commencer avec vous. Alors c'est facile de dire, « Ah Seigneur, envoie des gens. Envoie-les. » Moi, je sais, ça m'est arrivé. Hein. J'ai dit, « Seigneur, envoie quelqu'un dans le Jura. » J'étais à l'école biblique. Envoie quelqu'un dans le Jura. Ben, vas-y, mon coco. Vas-y. Parce que moi, je voulais aller partout, n'importe où dans le monde, sauf dans le Jura. Juste comme ça. Parce que là, je connaissais trop les gens, voyez-vous. J'étais connu. Tandis que je me suis dit, si je vais là où il y a des palmiers, ce sera plus sympa. Alors, il y avait une sœur d'ailleurs qui m'a écrit une fois, j'étais à l'école biblique. J'oublierai jamais ça. Elle m'a dit, tu sais, dans le Jura, il n'y a pas de palmiers ni de cocotiers, mais beaucoup de sauvages à sauver. Oui, Dieu nous mobilise, mes amis. Alléluia. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, c'est toujours le cas. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Partez. Puis l'objectif, après c'est sympa, hein. Je trouve le verset qui suit, il est assez sympa. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Eh bien, merci beaucoup, hein, Seigneur. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais c'est comme ça, c'est dans ce contexte-là que Jésus dit, je suis avec vous. Tous les jours. Si tu acceptes d'être envoyé comme un agneau au milieu des loups, alors tu pourras dire, Jésus est avec moi. Mais ne le dis pas autrement. Ne dis pas, Jésus est avec moi à toutes tes sauces. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Vous vous rendez compte l'autorité qu'il y a là-dedans? Vous vous rendez compte, mes chers amis? Alors moi, effectivement, quand je vais à la rencontre des gens dans la rue, ou bien je vais dans les villages, chez les gens, ben je cherche des hommes et des femmes de paix. Je cherche des gens qui cherchent Dieu. Alors, bien sûr, je vais pas trouver le 100% de gens de paix. Il y a des gens qui me disent « dégage ». Ça va encore, hein, quand on nous dit « dégage ». Il y a pire que ça. Mais il y a des gens qui cherchent Dieu, qui veut entendre. Il y a des malades pour qui je vais prier. Il y a quelque temps, je suis allé juste louer un bus, j'ai raconté à Sacha, avec mon beau-fils pour transporter des meubles. Et le monsieur, il a une sclérose en plaques. Et puis on boit un café, il commence à parler. Et puis il me raconte son histoire. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? J'ai prié pour lui. Après, je suis allé le revoir et j'ai dit, je vais m'engager à venir prier avec vous chaque semaine. Je passe toujours là, quand je viens ici, au Locle. Je passe juste à côté. Et je dis maintenant, je vais m'arrêter. Je vais prier pour vous, je vais demander à Dieu la guérison. Et je le ferai chaque fois que je viendrai chez vous. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Il m'a demandé, après j'ai partagé un calendrier, je vais lui amener une Bible. Je sais, voilà, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alors si tu as un ami, quelqu'un dans ton entourage qui est malade, mais c'est génial de pouvoir lui proposer la prière. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Pourquoi est-ce qu'on aurait peur de le faire? Ouais, mais peut-être ça ne marchera pas, peut-être comme moi, je ne sais pas quoi. Mais toi, c'est toi le problème justement, c'est pas lui. C'est toi le problème. Vous comprenez? Parce que Dieu veut intervenir. Et il veut nous apprendre à persévérer. Il y a des situations très difficiles qui, voilà, c'est comme on a l'impression qu'il y a quelque chose, il faut pousser, parce que c'est tellement lourd. La maladie semble être tellement forte, c'est comme un combat dans lequel on doit s'engager. Et il y a des situations aussi au milieu de nous, comme ça, dans lesquelles Dieu nous appelle à persévérer, mes amis. À persévérer, à prier pour ceux qui sont dans la souffrance. Mais parfois, c'est plus facile de prier pour ceux qu'on ne connaît pas. Si je veux ainsi dire. Vous comprenez? Alors, je ne connais pas quelqu'un, je prie, tout d'un coup, il est guéri. Je ne sais pas pourquoi, même Catherine Kuhlmann, qui avait un don manifeste de guérison, elle disait, moi, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui viennent à mes rencontres, ils sont guéris, ils ne se tournent pas vers Jésus, et puis il y a des chrétiens, ils ne sont pas guéris. Je ne comprends pas. Mais je prie, j'obéis. Et notre tâche, mes amis, c'est d'obéir. Allez guérissez les malades. Allez libérer les gens quand il y a des résistances, quand il y a des esprits méchants. Hier soir, c'était assez sport dans ce culte à Delémont parce qu'il y avait deux personnes qui étaient bourrées. Hein? Elles n'étaient pas remplies de l'Esprit Saint, mais de l'Esprit de vin. Mais elles étaient là. Elles étaient là. Et par la grâce de Dieu, je peux vous dire une chose, l'Esprit Saint a vaincu l'Esprit de vin. Les gens se sont calmés. Il y avait une grâce extraordinaire. Et on a pu aller au fond, il y a ma fille qui était avec moi, elle me disait, je sentais comme des coups, des lances de la parole qui allaient percer là où il fallait percer. Il faut le faire, mes amis. Le monde nous attend. Alors il y a des méchants, il y a des loups, c'est vrai, il y a des loups. Alors je ne sais pas, le casting, c'est un drôle de chef des ressources humaines, Jésus, hein, qui vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Hein. C'est un peu glauque, hein, apparemment. Oui, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, c'est vrai, mais il est avec nous, gloire à Dieu. Je dis un peu plus loin, verset 8, « Dans quelques villes où vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelques villes où que vous entriez, où on ne vous recevra pas, allez dans les rues, dites, nous secouons même la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Et je vous le dis, qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que vous. » Et je vais lire le verset 15, parce que ça, c'est, je sais pourquoi je vous dis. « Et toi, Capernaum, tu as été élevé jusqu'au ciel, eh bien tu serais abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute, celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Il n'y a pas de lézard, mes amis. Jésus ne nous a pas dit que tout irait automatiquement. Non, ce n'est pas comme ça. Et quand vous allez voir Capernaum aujourd'hui, moi je suis allé voir Capernaum, eh bien, vous voyez exactement ça quand vous allez à Capernaum. Une ville complètement en ruine. Rien d'autre. Intéressant, hein ? Et voilà, le Seigneur ne nous a pas dit, ne nous a pas promis partout le succès. Il faut bien qu'on comprenne ça. Mais le succès ne viendra pas non plus si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Alors, souvenez-vous, mes amis, qu'il ne s'agit pas simplement de dire Seigneur. Et je reprendrai Matthieu 7, je vais terminer avec ça, si vous êtes d'accord, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Chers amis, quand Jésus dit ça, ça ne veut pas dire qu'il est contre les miracles. Non, puisqu'il a fait des miracles. Il va encore y avoir des miracles. Il y aura encore des prophéties. Il y aura des démons chassés. Tout ça, Jésus n'est pas contre. Le problème, c'est qu'on utiliserait ces différents dons que Dieu nous donne. Excusez-moi, pour rouler les mécaniques. Et non pas pour connaître Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nous le connaissions. Est-ce que je le connais? Est-ce que tu connais Dieu? C'est ça que le Seigneur Jésus veut. Et le verset 24 à 28, quand il dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique », c'est l'histoire de la maison sur le sable et la maison sur le roc, je ne veux pas tout la lire. Eh bien, il dit en fait, ceux qui pratiquent la parole, qui mettent en pratique, qui obéissent, ceux-là bâtissent leur maison sur le roc. Les autres, ils sont comme les pharisiens qui avaient la connaissance, mais ils ne pratiquaient pas, ils ne levaient même pas le petit doigt. Alors je ne vous dis pas que l'obéissance, c'est quelque chose de simple. C'est un combat, et quand ce ne sera pas un combat, ça m'étonnerait. Mais Dieu, il dit, j'exercerai tes mains au combat. Je vais exercer, tu vas t'exercer au combat. Amen. Est-ce que nous voulons combattre? Hein, comme Jude dit, le Seigneur nous a enseigné à combattre pour la foi qui est révélée au sein une fois pour toutes. Oui? Tu veux pas aller voir les loups? Ben, tu risques pas de voir des miracles. Tu ne veux pas aller au milieu des loups, tu ne risques pas de voir des guérisons. Tu ne risques pas de voir des gens sauvés. Choisis. Tu veux que Jésus soit avec toi tous les jours? Alors obéis et fais des disciples. On va prier. Seigneur Dieu, tu ne nous as jamais dit que ce serait facile. Tu as dit qu'il y en a même qui n'ont pas résisté, qui ont accepté de mourir, qui ont accepté la mort. Il y a les martyrs, les témoins sont des gens qui ont accepté même de mourir pour que ton nom soit porté. Parce que c'est tellement important que des gens soient sauvés. Je prie aussi de nous secouer. Je prie que ce partage de ta parole d'aujourd'hui ne soit pas un étage de plus dans notre cerveau. Je prie simplement que tu nous fasses la grâce d'obéir. Et en obéissant, nous savons que les choses changeront. Merci de nous défier, Seigneur. Tu nous défies. Et je sais que les gens ne viendront pas ici ou ne seront pas sauvés si nous n'allons pas vers eux. Parce que tu nous dis « Allez ». Tu nous invites à aller. Alors moi, je me laisse encore envoyer. Je prie pour chacun de mes frères et sœurs qu'ils se laissent envoyer par toi au nom de Christ. Amen.